Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la religion ou les religions comme force configuratrice de l'histoire et donc comme actrice géopolitique. De fait, depuis 1945, nombre de conflits présentent une forte dimension religieuse et même si la religion n'est jamais la seule explication de ces violences, lorsqu'elle divise les peuples, l'intensité des conflits augmente. La religion, un objet extrêmement compliqué, aujourd'hui au cœur des recherches en relations internationales et en études des conflits. Recherches qui mettent à jour les liens entre religion et intervention internationale, religion, nationalisme et terrorisme, religion et faiblesse de l'État, ou encore entre religion, nationalisme ethnique et guerre révolutionnaire. Le religieux est de retour partout dans le monde. C'est le constat de l'ouvrage « Religion et politique » paru aux presses de Sciences Po sous la co-direction de Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS et directeur du série Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Et de Philippe Portier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, directeur du groupe Société, Religion, Laïcité au sein du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et ouvrage auquel a contribué Cathy Rousselet, directrice de recherche à Sciences Po, spécialiste des questions religieuses en Russie. Bonjour.
Bonjour.
On peut sourire avec cette affirmation que Dieu fait de la politique, mais c'est une réalité. Il y a le Vatican comme État, son rôle dans certains rapprochements. On ne va pas les énumérer tous, mais pour ce qui est d'un passé récent, on pense au rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Les visites de chefs d'État faites au pape, on se rappelle du président américain, notamment après sa prise de fonction. Religion toujours, avec en 1979 la révolution islamique en Iran, on voit le politique s'adjoindre le religieux, le conflit actuel entre chiites et sunnites au Moyen-Orient, jusqu'en Russie où l'on voit l'église orthodoxe russe avoir un rôle dans les affaires de l'État. Le religieux est donc de retour. Comment expliquer ce retour alors que l'on pensait, à tort visiblement, que la modernité avait induit la disparition sociale et surtout politique du religieux? L'avancée de la modernité ne se traduit pas nécessairement par un recul de la religion, Philippe Portier?
Oui, on a longtemps cru, en effet, que l'avancée de la modernité, appuyée tout à la fois sur la raison, l'État, le progrès, se traduirait par l'effacement de la religion, non seulement comme susceptible de construire la vie politique, mais même d'animer, d'informer nos propres existences privées. Et ce qui est advenu au cours de ces dernières années, c'est précisément que la religion apparaît aujourd'hui comme étant au cœur de l'univers privé d'un certain nombre de nos citoyens, de nos concitoyens, mais également comme étant au cœur des mobilisations politiques, des structurations politiques qui caractérisent nos sociétés contemporaines. Je dirais d'un mot, si vous voulez, que on travaillait naguère à partir du concept de sécularisation comme effacement du religieux de nos horizons de vie, et que ce concept est aujourd'hui très largement remis en cause.
Alain Diekhoff.
Oui, je partage évidemment ce constat, en ajoutant que ce qui est remis en cause, évidemment pas par tous, mais par certains acteurs qui se prévalent d'une façon ou d'une autre du religieux, c'est dans le fond surtout d'un principe qui a quand même été un principe structurant en effet de la modernité politique, c'est la logique de séparation, c'est-à-dire d'autonomie, ce qu'on appelle en langage un peu pompeux parfois l'autonomie des sphères, c'est-à-dire le politique distinct du religieux, distinct aussi de l'économique et du social, etc. C'est fondamentalement ça qui est remis en cause par certains, lorsqu'on peut entendre. Évidemment, on peut penser à des leaders frères musulmans ou bien des leaders évangéliques aux États-Unis ou en Amérique latine qui finalement clairement affirment que non, le religieux a quelque chose à dire, y compris sur la sphère politique et y compris dans l'action politique. Donc c'est une revendication claire et nette. Ça ne veut pas dire un rejet global de tout ce qui est moderne. Ça, il faut faire attention à ça parce qu'on voit très bien que tous ces mouvements n'ont évidemment aucun problème à utiliser la technique moderne, les moyens modernes. Je dirais même que la modernité, en ce sens-là, tout ce qui est Internet, téléphone portable, leur donne au contraire des moyens de diffusion nouveaux. Ça, c'est le point qui me paraît important. Et ça ne veut pas dire non plus rejet, en particulier d'un aspect qui me paraît important, évidemment, de la modernité, c'est-à-dire toute la logique économique libérale. La plupart de ces mouvements n'ont aucun problème avec le capitalisme, pour faire vite. On le voit bien, les frères musulmans, les les évangéliques, au contraire, attribuent même une vertu, finalement, dans la logique d'entreprise, parce que quelque part, c'est le signe que le croyant, finalement, est dans le bon chemin. Donc, c'est vraiment la logique de séparation qui est fondamentalement remise en cause. Le reste, ils n'ont aucun problème avec. Ils peuvent tout à fait s'en accommoder et même l'utiliser, en réalité.
Alors, on va parler de la Russie, Cathy Rousset, tout de suite, mais j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Alain Diakov. Il ne s'agit pas de rejet du capitalisme, mais tout de même, ce qu'on sent, c'est une certaine, alors à défaut de rejet, tout au moins un mouvement de résistance à l'égard de la globalisation libérale du monde et finalement des effets de déstructuration culturelle qu'elle entraîne, Philippe Poirier.
Oui, ce qui apparaît très, très clairement dans la plupart de ces mouvements, il faudrait évidemment établir des catégories plus précises, mais c'est un phénomène qu'on pourrait dire de glocalisation. Phénomène de glocalisation où, d'une part, ces mouvements s'inscrivent très, très clairement dans la mondialisation, souvent en établissant des réseaux à l'échelle planétaire, permettant de contrer ce qu'ils nomment leurs ennemis, et en même temps, tout en acceptant cette globalisation du religieux, ils essayent de travailler à partir d'un dessein, d'un projet de réenracinement dans des cultures locales qui permettent de résister à la globalisation économique du monde, qui, de leur point de vue, apparaît comme un rouleau compresseur des traditions à partir desquelles on pourrait construire sa propre existence. Il y a donc là, si vous voulez, une sorte de paradoxe de ces mouvements. À la fois, ils travaillent à l'échelle planétaire et en même temps, ils essayent de réinscrire l'existence de leurs membres, l'existence de leurs adhérents dans des cultures locales qu'ils essayent de réévaluer. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi ces mouvements, la plupart du temps, réévaluent ce qu'ils appellent des cultures nationales, des cultures locales, en insistant tout à la fois sur l'aspect structurant de la famille, sur l'aspect structurant également de l'éducation. Et quand on essaye de faire une comparaison générale de ces mouvements, on s'aperçoit que c'est souvent autour de ces deux points qu'ils essayent de remettre en cause la frontière qui avait été établie par la première modernité entre le privé et le public. Il faut reconquérir le public afin de faire valoir dans ce monde une législation, normativité qui permettrait à la fois aux structures familiales et aux structures éducatives de se réenraciner dans le récit religieux.
Cathy Rousselet, je me tourne vers vous. Comment l'exemple de ce qui se passe en Russie depuis l'implosion de l'Empire soviétique, comment s'inscrit le renouveau religieux dans tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent ?
En fait, on est effectivement passé en Russie de ce qu'on a cru pouvoir appeler une très forte sécularisation à ce qu'on a cru pouvoir appeler une désécularisation. En fait, je pense que les choses sont un petit peu plus compliquées. D'abord, y a-t-il vraiment eu une sécularisation de la société soviétique ? Oui, très largement. On a beaucoup parlé des persécutions religieuses. On oublie parfois quand même que les pèlerinages ont continué à être assez vivaces à la période soviétique et on oublie surtout que dans les années 70, l'intelligentsia a fait preuve d'un vrai intérêt pour le religieux et c'est ce qui explique en grande partie pourquoi début des années 90, l'église orthodoxe russe a pu s'ancrer comme elle l'a fait. Alors ça c'est la première chose que j'aurais envie de dire. La deuxième chose c'est que si l'on parle de désécularisation, là aussi c'est plus compliqué puisque le taux de pratiquants réguliers est quand même extrêmement faible et que la religion orthodoxe est avant tout un signe d'appartenance culturelle et nationale. Alors, s'agissant des questions de modernité, ça c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant. À la période soviétique, on liait sécularisation et modernisation et modernité, certaines modernités. Fin des années 80, début des années 90, la religion prend de l'importance et en fait, on considère en Russie, enfin Russie soviétique à ce moment-là, que la libéralisation religieuse est un signe de libéralisation politique et de signe de la modernité et de retour à ce qu'on appelle la civilisation et à l'Occident. Donc c'est ce qu'on observe à cette époque-là. Et puis effectivement, peu à peu, on voit cette église orthodoxe russe prendre de plus en plus de poids dans l'espace public, si on peut parler d'un espace public en Russie, ce qui est une vraie question. Et là, effectivement, on pense que l'église orthodoxe russe joue contre la modernité. Là aussi, c'est compliqué. Effectivement, cette Église orthodoxe russe, elle développe des mouvements au sein d'elle-même, des mouvements anti-modernes. Il y a un rejet des valeurs dites occidentales. Il y a une volonté de s'ancrer dans les traditions culturelles de la Russie. Ce lien entre religion et nation est de plus en plus marqué. On le voit, on pourra revenir peut-être dessus, sur ces mouvements qui sont contre le film Mathilda. Mais c'est aussi assez intéressant, mais on y viendra peut-être après. Mais ces mouvements, même ces mouvements les plus radicaux, finalement, ils adoptent la grammaire de la modernité. Ils mettent au cœur de leur discours cette idée que la liberté de conscience du croyant est importante. Donc en fait, ils inscrivent aussi une sorte de grammaire moderne libérale au cœur de leur dispositif. Et pour rejoindre ce que disait Philippe Portier, on trouve effectivement en Russie ces mouvements qui sont très fortement marqués par la défense de la famille, par la défense des valeurs morales dans l'éducation, et ils rejoignent des mouvements occidentaux, alors qu'ils s'opposent aux mouvements évangéliques lorsqu'ils sont en Russie. Quand ils sont sur la scène internationale, ils trouvent des points de convergence importants et explicitement affirmé avec des mouvements évangéliques. Donc c'est très intéressant ce paradoxe quelque part.
Philippe Portier, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Cathy Rousselet sur la question proprement parlée russe, où on détaille un petit peu les phénomènes qui traduisent ce retour du religieux dans le monde. Philippe Portier.
Oui, je crois que ce que vient de dire Cathy Rousselet renvoie à un mouvement qui est assez général, au fond, la remise en cause de la frontière privée public, avec cette idée que les églises aujourd'hui, même dans la sphère occidentale, n'hésitent pas à vouloir pénétrer la sphère de l'État pour y transformer l'ordre légal, l'ordre normatif. Alors c'est, me semble-t-il, une manière de rupture tout de même. On pourrait dire que les églises ont toujours eu un projet intégraliste, ramener l'ensemble de la sphère sociale et de la sphère politique aux significations dont elles sont porteuses.
Tout s'approprier, c'est cela qu'il faut entendre aussi, Philippe Portier, cette volonté de...
Oui, je pense que le mot intégralisme permettrait de décrire l'ensemble des phénomènes religieux que nous avons analysés dans cet ouvrage. Cette idée qu'il faut tout rapporter, tout reconstituer à partir du primat des significations religieuses. Est-ce que c'est un phénomène récent? Nous pensons que oui. Il y a eu dans l'histoire, en particulier au XIXe siècle, un certain nombre de tentatives en ce sens. On se souvient de Pie X appelant à tout restaurer dans le Christ. Il se trouve qu'il y a eu une période dans les années 1950, 1960 et encore au début des années 1970, où les églises travaillaient à partir du principe d'autonomie des réalités terrestres. C'est le grand mot, par exemple, de Vatican II, avec cette idée qu'au fond, il fallait désormais accepter la séparation entre les églises et l'État, et plus encore la séparation relative, bien sûr, mais la séparation tout de même entre le temporel et le spirituel. Et ce qui advient à partir de la fin des années 70, avec un tournant 78-79, 80, c'est que les églises ne se contentent plus d'être reléguées dans la sphère privée et qu'elles tentent, à la faveur d'une crise de la modernité triomphante, de réinfuser le monde à partir de leurs propres valeurs.
Alors, le passage donc du privé au public est un fait réel, ça n'est pas simplement qu'il est placé sous les feux de la rampe. C'est ce que j'entends. J'ai cette question, est-ce que le retour du religieux est un retour aux temps anciens, quand toute la vie sociale était configurée par le religieux, Alain Diekhoff?
Alors, je répondrai à votre question, mais je voudrais peut-être un peu embrayer sur ce que Philippe vient de dire. Moi, je pense que là, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer depuis, disons, une vingtaine ou une trentaine d'années, et qui est l'action que des acteurs porteurs de religieux, c'est-à-dire des personnes mues par des convictions religieuses, que quelque part, ces personnes mues par des convictions religieuses n'ont plus de frein et clairement assume le fait qu'ils agissent dans la sphère en particulier politique. Ça, c'est quand même quelque chose que l'on note, je dirais, un petit peu à travers le monde. Là, il y a quelque part une globalisation en ce sens-là. Je vous donnerai simplement un exemple. Au Parlement brésilien, aujourd'hui, il y a 80 députés ou sénateurs qui sont représentants évangéliques, clairement affichés. Il est évident qu'ils vont utiliser leur pouvoir politique pour avoir une action sur le législatif, c'est-à-dire, par exemple, pousser des lois qui encadre l'avortement, pousser des lois qui promeuvent une certaine vision de la famille, qui est hétérosexuelle, etc., etc. Donc ça, c'est un indice, si vous voulez. Évidemment, c'est pas uniquement dans l'univers évangélique qu'on trouve ça. Bien évidemment, dans la sphère qui relève du monde musulman, c'est très très fort, avec des parties qui relèvent de la sphère des frères musulmans que l'on voit très clairement du Maroc jusqu'à l'Irak et la péninsule arabique, qui ont clairement cet agenda-là. Ça, c'est quand même quelque chose qui montre une rupture, parce que si vous pensez une seconde à ce qui se passait dans les années 60 dans cette même zone, c'était pas du tout ça qui était poussé en avant. C'était un nationalisme séculier. On peut penser à Nasser, on peut penser évidemment à Nehru si on sort de l'ère musulmane vers l'Inde. Or c'est plus ça qui a le vent en poupe. Donc là il s'est passé quelque chose. On peut pas nier qu'il se soit passé quelque chose. Et c'est quelque chose d'assez général. Alors qu'évidemment profite, et ça je crois que ça revient à ce que nous avions dit tout au début, profite quelque part d'une crise évidente du projet modernisateur tel qu'il avait été porté dans les années 50 et 60, et qui montre que ce projet, quelque part, est en panne. Alors, ça ne veut pas dire un retour en tant que tel, évidemment, aux temps anciens, pour répondre à votre question. On ne fait jamais exactement la même chose. Et on le fait en particulier, ce que je disais précédemment, avec précisément les moyens modernes. On n'a pas peur de la modernité, encore une fois, technique et autre, pour véhiculer ce message. Mais il y a une reconfiguration. On veut bouger les frontières, finalement. Encore une fois, je reviens à cette question. On veut remettre en cause une certaine logique de séparation qui avait tendance à être dominante, et en tous les cas qu'on affichait comme venant finalement consubstantiel au projet moderne.
Philippe Portier.
Pour consonner au fond avec ce que disait à l'instant Alain Dickoff, peut-être en y ajoutant une forme d'explication. Nous avons jusqu'à présent, tous les quatre, essayé de dire qu'il y avait une sorte de retour à une volonté de déséparation. Tout le problème, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que, quelque part autour du tournant des années 1970-1980, on est confronté à ce nouvel agenda reposant lui-même sur de nouvelles stratégies religieuses? Il faut probablement l'analyser à partir d'une double raison. Deux raisons étroitement entremêlées. La première, c'est qu'on est confronté, à partir de ce moment-là, à une crise de ce qu'on pourrait appeler la modernité triomphante. La modernité reposait jusqu'alors, depuis le 19e siècle, sur trois pilier essentiel, le pilier de l'État, le pilier de la raison, le pilier du progrès. Et cette conception futuriste de l'histoire, suivant laquelle demain serait nécessairement meilleur qu'aujourd'hui, se trouve alors frappée de décroyance par le fait tout simplement que le monde, un peu partout, entre en crise. Une crise qui est d'ordre économique, mais qui se diffuse très vite dans la sphère sociale et dans la sphère politique. Ça, c'est un premier élément qui appelle précisément le religieux à retrouver des soutiens, à retrouver des horizons de sens que la période antécédente lui avait refusé. Et puis, un deuxième point, c'est que parallèlement, alors même que le politique s'affaiblit à travers le thème de l'État ou de la raison ou du progrès, le religieux retrouve un discours qui n'était plus celui qu'il tenait dans les années 1950-1960. On voit alors un peu partout, à la faveur d'une production doctrinale renouvelée, s'affirmer dans tous les mondes religieux l'idée que le religieux est la solution. On le voit avec le pontificat de Jean-Paul II à partir de 1978-1979. On le voit avec le projet des frères musulmans. On le voit aussi du côté de l'Inde avec les réactivations de l'hindouisme politique. Autant d'éléments où on s'aperçoit que le religieux revendique pour lui-même la possibilité d'ouvrir de nouveaux horizons de libération, alors même que l'État séculier n'est plus en mesure de les dessiner. Alors tout cela nous renvoie, me semble-t-il, à un moment tout à fait charnière dans l'histoire où la frontière du politique et du religieux se brouille. Le religieux souhaite réintervenir dans la sphère politique et le politique en appelle au religieux pour essayer de retrouver des garanties, des assurances lui permettant de reconstituer sa propre légitimité. Et je pense que c'est autour précisément de l'avènement de cette nouvelle figure de la modernité qu'il faut essayer probablement de penser ce qu'on pourrait appeler très rapidement le retour du religieux en politique.
Retour du religieux en politique, la frontière se brouille entre le religieux et le politique. On aura bien sûr l'occasion de développer tout cela dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Philippe Portier, Alain Dickoff et Cathy Rousselet dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la religion ou les religions comme force configuratrice de l'histoire et donc comme actrice géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS et directeur du série Sciences Po, Philippe Portier, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, directeur du groupe Société Religion Laïcité au sein du CNRS, et Cathy Rousselet, directrice de recherche à Sciences Po, spécialiste des questions religieuses en Russie. Ce débat qui tourne autour de la sortie de l'ouvrage que Alain Diekhoff et Philippe Portier ont co-dirigé, « Religion et politique », paru aux presses de Sciences Po. Vous donnez trois phénomènes qui traduisent ce retour du religieux dans le monde. D'une part, on en a un petit peu parlé, mais peut-être qu'il serait intéressant de développer à nouveau, polarisation des sociétés partagées entre effacement et réaffirmation des croyances, politisation renouvelée des religions et spiritualisation des politiques. Cathy Rousselet, sur le cas particulier de la Russie. Philippe Portier évoquait dans la première partie de l'émission ce retour à la volonté de déséparation entre le politique et le religieux. Est-ce que cela colle à ce qui se passe en Russie ?
Alors, oui et non. Oui et non. On peut effectivement considérer qu'il y a une déséparation du pouvoir politique et de l'Église orthodoxe russe, mais en fait, je me demande si dans le contexte à la fois soviétique et post-soviétique et le contexte d'un pays qui est fortement marqué par la tradition orthodoxe, on n'est pas dans des phénomènes peut-être un tout petit peu différents. Mmh. Et ce que j'essaie de développer dans l'ouvrage « Religion et politique », c'est que finalement, il a toujours existé une volonté d'affirmer le lien très fort entre culture, tradition et morale. Et j'ai employé ce terme de duhovnost dans ce livre, puisque ce terme russe est constamment employé dans les discours politiques et les programmes politiques à l'ère poutinienne. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce même terme duhovnost, qui se traduit par spiritualité, mais aussi par culture, ce terme-là, quand on regarde les discours politiques de Khrouchtchev, quand on regarde les discours politiques de Brejnev, on retrouve le même terme. Et donc, en fait, quelque part, ça signe, au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure, qui est très juste, hein, de cette place majeure accordée à l'Église orthodoxe russe sur la place publique, ça signe une certaine continuité sur la nécessité pour créer un ciment sociopolitique, d'une part, et pour s'affirmer aussi contre les autres, contre l'Occident, c'est ce besoin d'affirmer cette place majeure de la culture liée à la morale et aux traditions. Et aujourd'hui, l'Église est appelée à nourrir cette spiritualité, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, elle se coule dans une rhétorique ancienne. Donc, on est dans une déséparation, dans un certain sens. Voilà, mais cette déséparation, est-ce qu'elle a vraiment jamais disparu ? Ça, c'est le premier point. Et puis, je voudrais revenir aussi, c'était très intéressant, ce que disaient Philippe Portier et Alain Diekhoff, sur le fait que, en fait, il n'y a plus vraiment de frein. Et qui a cette volonté, en fait, des mouvements orthodoxes les plus radicaux, de se présenter sur la scène publique avec leurs arguments, par exemple, sur la place de la mémoire de Nicolas II dans le paysage actuel.
Et on peut le rappeler peut-être et replacer dans le contexte de ce qui se passe en ce moment. Je reprends un tout petit peu la main. C'est cette question autour d'un film, il s'intitule Mathilda, voilà. Qui retrace l'aventure de Nicolas II, le tsar, avec une danseuse du Bolchoï. Et la sortie de ce film provoque une véritable polémique en Russie. Il a été interdit dans certains endroits, pas dans tous. Il y a des manifestations. Il faut dire aussi que Nicolas II a été canonisé.
Exactement, il a été canonisé en 2000 comme souffre-passion, avec beaucoup de résistance, tant au sein de la population qu'au sein de l'Église. Et je me souviens de prêtres me disant qu'ils avaient quand même beaucoup de réticence à mettre une icône de la famille impériale dans leurs églises. Donc au début des années 2000, Nicolas II n'était pas considéré comme un personnage majeur de la Russie actuelle.
Et tout à coup, si.
Et tout à coup, on trouve cette polémique autour de Mathilda. Et ça, c'est vraiment intéressant sur ce point qu'effectivement, les mouvements les plus radicaux n'ont plus, ont vraiment la possibilité de s'inscrire pleinement dans le paysage actuel. Et les plus radicaux de ceux aussi qui défendent Nicolas II. C'est-à-dire que ce sont ceux qui considèrent que Nicolas II est Dieu lui-même qui peut expier les fautes des croyants. Donc il y a aussi ces moments-là qui sont très présents. Alors pourquoi est-ce que ça marche, si je puis dire? C'est qu'en fait, il y a d'une part un réseau de croyants et de patriotes qui se sont mobilisés contre la libéralisation de la justice des mineurs il y a quelques années. Et puis, c'est aussi la place majeure aujourd'hui accordée au discours religieux dans le politique. Et c'est parce que des députés comme Elina Mizulina, par exemple, ont avancé cette idée qu'il fallait lutter contre l'euthanasie, contre les divorces, pour la défense de la famille. Donc on a un discours officiel qui promeut des valeurs de plus en plus traditionnelles et conservatrices. Et c'est ça qui fait que ces mouvements-là se sentent plus écoutés.
Alors, moi, j'ai cette question à vous entendre, Cathy Rousselet. Ce qu'on peut se demander, c'est la place de ces mouvements extrémistes, radicaux, par rapport à l'Église orthodoxe. Est-ce que les liens sont avérés ou bien ce sont des choses indépendantes? Et la question qui vient après, c'est Vladimir Poutine, quelle relation a-t-il avec la religion orthodoxe? Il est lui-même croyant et pratiquant.
Alors, l'Église orthodoxe, la hiérarchie de l'Église orthodoxe, a beaucoup de mal à contrôler tous ces mouvements. Elle les a laissés prospérer aussi ces dernières années. Il y a eu cette affaire Pussy Riot qui a conduit à cette loi contre l'offense faite aux croyants.
Pussy Riot, on peut juste rappeler, sont ces femmes qui sont entrées
les cathédrales du Christ Sauveur et qui ont tenu des propos, mais elles ont tenu des propos dits blasphémateurs par l'Église orthodoxe russe. Et donc, ça conduit à une grande polémique autour de cette question de jusqu'où on peut aller dans la critique de l'Église orthodoxe russe, parce qu'en fait, elle critiquait très spécifiquement les relations entre Vladimir Poutine et le patriarche Kirill. Donc, toute cette ambiance a fait que ces différents groupes ont été de plus en plus légitimés. Et c'est aussi pour cela que l'Église, aujourd'hui, a beaucoup de mal à les contrôler. Et il y a des discours très pluriels, en fait, autour de ce qui se passe autour du film Mathilda. Certains hiérarques considérant que, voilà, on peut tout à fait montrer ce film, d'autres considérant que c'est effectivement blasphématoire.
Et alors, deuxième partie de ma question, deuxième question, Vladimir Poutine et sa relation avec la religion orthodoxe, pratiquant?
Je parlerai plus largement, en fait, des élites politiques. Il y a, en fait, des élites politiques qui sont encore tout à fait sécularisées. Mmh. Enfin, au ministère de la Culture russe, il y a des gens qui ont une pensée tout à fait laïque. Donc, c'est très compliqué. Vladimir Poutine, il est orthodoxe de culture et il a un directeur spirituel, Tiron Chevkounov, dont on parle beaucoup. Il aurait une influence sur lui, comme l'ont souvent les directeurs spirituels. Voilà.
Alors, le retour du religieux, Philippe Portier, Alain Diekhoff, on voit des mouvements assez inégaux selon les religieux. Je pense à la notion de désaffection religieuse. On la retrouve, cette désaffection religieuse aux États-Unis notamment, c'est ce que vous soulignez dans l'ouvrage. Est-ce qu'il y a un distinguo que l'on peut faire entre, d'un côté, les religions chrétiennes avec une certaine désaffection, même si l'exemple que nous donnait à l'instant Cathy Rousselet vient à l'encontre de ce que je suis en train de dire, et alors que côté musulman, on sent vraiment un phénomène particulièrement croissant et se développant, Philippe Portier?
Je pense que l'ouvrage que nous publions tendrait à relativiser ce que vous venez de dire. On a souvent considéré que l'Europe était en quelque sorte une exception dans l'univers planétaire aujourd'hui, avec cette idée que l'Europe serait un univers d'un niveau, d'une intensité de sécularisation tout à fait inégalée dans les autres continents. C'est vrai. C'est vrai que la sécularisation a ici beaucoup plus frappé les populations que dans d'autres continents, avec cependant cette idée que nous relevons aussi dans le cadre de notre travail, qu'il y a des mouvements parallèles de réaffirmation du religieux, non seulement en Europe de l'Est, mais aussi en Europe de l'Ouest. C'est l'effet des éléments que nous pointions tout à l'heure, crise du politique, réenchantement du religieux autour de stratégies de reconquête. Ce qui nous semble parallèlement, c'est que pour ce qui concerne les pays du Sud, appelons-les comme cela, il y a bien sûr des phénomènes de réaffirmation religieuse très nette visant à remettre en cause le nationalisme séculier qui, au cours des années 1950-1960, avait marqué ces zones du globe. Mais il y a parallèlement aussi y compris dans les pays arabes, des phénomènes de sécularisation avérés. Cette idée que toute une partie de la population, à partir du moment où elle entre en particulier dans des niveaux d'éducation supérieure, à partir du moment où il s'agit de populations urbaines, connaît également des phénomènes de désaffiliation. Alors, il ne s'agit pas de parler, à proprement parler, de convergence des systèmes, mais d'affirmer tout de même que sur la plupart des continents, il y a un phénomène qui n'est pas un phénomène de sécularisation généralisée, un phénomène qui n'est pas un phénomène de réenchantement ou de réaffirmation généralisée du religieux, mais bien davantage un phénomène de polarisation des sociétés. C'est ce qui crée le conflit, c'est ce qui appelle la guerre des cultures, précisément. On trouve une partie de la population très enracinée dans le progrès, la raison, cette idée que, précisément, on doit construire sa propre existence à partir du principe de liberté-autonomie, et puis, en résistance à cette vague de sécularisation, une vague, au contraire, de réenracinement dans des significations religieuse lourde. Et c'est précisément dans le conflit entre ces deux parties de la plupart des sociétés que se construit aujourd'hui la dispute politique, qui est d'ailleurs très marquée par la dispute religieuse.
Ça, c'est tout à fait intéressant parce que le lien précisément avec la question religieuse dans cette polarisation des sociétés, partagée entre effacement et réaffirmation des croyances, il n'est pas si évident que cela, Alain Dikov.
Alors, moi je pense que ce qui est important de distinguer, c'est que il peut y avoir, dans certaines sociétés, peut-être davantage que dans d'autres, et là on pense en effet aux sociétés occidentales, y compris les États-Unis, bon, qu'on présente toujours comme le pays où le religieux est le plus important, quelque part c'est vrai, mais en même temps, on voit bien dans le chapitre qui est consacré aux États-Unis que si on regarde les statistiques, il y a une montée lente certes, mais il y a quand même une montée des gens qui s'affirment sans religion. Donc, quelque part, il se passe aussi quelque chose aux États-Unis qui est similaire à ce qui s'est passé depuis plus longtemps en Europe occidentale. Mais, là où il y a le mais, et là je crois qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est que cette désaffiliation individuelle en termes purement de croyance peut tout à fait aller de pair avec un réinvestissement de la religion comme élément d'identité collective. Mmh. C'est ça le point qui me paraît très important et qu'on voit dans beaucoup de sphères religieuses à travers le monde. Un petit peu la religion comme culture, plus que la religion comme croyance. Aujourd'hui, vous regardez le Japon, on voit très bien que Abe met en avant la dimension shintoïste en la liant clairement à l'identité collective du Japon. On le voit en Hongrie avec Viktor Orban qui a fait modifier le préambule de la Constitution en insistant sur la vertu unificatrice du christianisme pour la nation hongroise, on le voit évidemment en Pologne, dans les pays musulmans, c'est tout à fait évident que le lien État-Islam a été réaffirmé. Et je pense même à une religion qu'on n'associe pas nécessairement à cela et qu'il faut quand même mentionner et à laquelle on consacre aussi plus que quelques pages, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme, on pense que voilà, c'est la pacification, etc. En réalité, c'est plus compliqué que ça parce qu'on voit bien qu'en Birmanie ou au Sri Lanka, le bouddhisme est utilisé politiquement, très clairement, et lié à l'État. On dit que finalement, on ne peut être un vrai Singalais que si on est bouddhiste, on ne peut être un vrai Birman que si on est bouddhiste, et là c'est tout le problème des Rohingyas dont on parle beaucoup depuis quelques mois qui est posé. Là, il y a quelque chose qui me paraît très très important et qui est quelque part là aussi global, en effet, c'est l'affirmation de la religion comme un élément fondamental de l'identité collective de beaucoup de groupes qui se revendiquent nationaux. Bref, c'est la montée de ce que, avec d'autres, j'appelle le nationalisme religieux qui est vraiment frappant, quels que soient finalement les systèmes de croyances auxquels on peut faire référence.
Alors, nationalisme religieux, qui est tout un chapitre de l'ouvrage et dans lequel vous faites rentrer quatre pays, parce que c'est un choix aussi, je les cite, Israël, la Turquie, l'Inde et la Russie, que nous évoquions à l'instant avec vous, Cathy Rousselet. Quelques mots sur l'interétatique, on voit les religions être un élément constitutif de nombreux conflits contemporains, soit qu'elles aient un rôle inspirationnel ou instrumental, et en même temps le caractère multidimensionnel et multiniveau du phénomène religieux qui permet également à ces religions ou aux religions d'être porteuses d'initiatives de paix et de réconciliation. Là, ce que l'on voit et ce que l'on constate, c'est une place prépondérante dans ce deuxième aspect du côté pacificateur, c'est la place prépondérante de l'Église catholique, Philippe Portier ?
Oui, il y a évidemment dans le religieux ce que les anciens appelaient quelque chose qui relève du pharmacon. Le religieux, c'est à la fois une médecine qui peut provoquer la mort du patient, mais en même temps une médecine qui, bien dosée, permet d'éviter sa disparition. Et on voit bien, à travers ce que vous venez de dire, que le religieux renvoie précisément à ces deux faces. Dans un certain nombre de cas, le religieux est instrumentalisé par des groupes pour essayer de créer de la rupture et souvent du conflit, de la violence portée aux extrêmes. On a parlé d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'inscrire le religieux dans les conflits de notre temps, d'une violence cosmique qui, par le fait qu'il repose sur le sacré, multiplie précisément la dynamique des agressivités. Ça n'est pas le tout du religieux. Et on voit bien que sur de nombreux continents, le religieux peut apparaître comme une force de paix. Vous parliez de l'Église catholique, je vais y revenir. On pourrait évoquer aussi les mobilisations des Quakers, par exemple, des protestants qui, sur ce terrain-là, ont aussi des actions extrêmement vertueuses. Alors, pour ce qui concerne l'Église catholique, c'est une tradition longue, mais qui a été réévaluée au cours de la dernière période à travers l'action de deux types d'acteurs. Des acteurs qui pourraient relever de la société civile, je pense par exemple à la communauté Sant'Egidio qui avait été créée dans les années 1960 dans une perspective sociale d'aide aux plus déshérités dans la ville de Rome. Et puis, peu à peu, une action diplomatique s'est mise en place et qui s'est traduite par exemple au Mozambique par des résultats extrêmement probants, Sant'Egidio étant parvenu à établir une médiation entre les belligérants. Alors ça, c'est un premier type d'acteurs, et puis un second type d'acteurs qu'on oublie très souvent, la hiérarchie catholique elle-même intervient. Elle intervient, on l'a vu récemment, pour offrir ses services dans le conflit qui oppose l'État espagnol à la Generalitat de Catalogne. On l'a vu aussi pour ce qui concerne un conflit entre l'Argentine et le Chili au début des années 1980. Le pape Jean-Paul II est intervenu en tant que médiateur pour résoudre une crise qui menaçait guerre. C'est aussi ce qui est advenu avec le pape François lorsque il a essayé, en y parvenant du reste, de réconcilier d'un côté la guérilla colombienne, de l'autre le gouvernement colombien. Et on voit bien qu'il y a là des éléments de réconciliation qu'on a trouvé aussi en Afrique au moment de la sortie des dictatures, lorsqu'il s'est agi de mettre en place des conférences nationales qui ont été placées sous la présidence de tel ou tel archevêque ou évêque. On est bien là dans une perspective qui vise à considérer que la Pax Christi, la paix du Christ, peut avoir une influence décisive sur les conflits de ce temps. La religion n'est pas simplement facteur de guerre, elle est aussi, par beaucoup de ses acteurs, facteur de médiation et de paix.
Alors, beaucoup de questions qui se pose, que font donc les autres religions? Est-ce qu'on peut imaginer précisément, Cathy Rousselet, peut-être en guise de conclusion, la religion orthodoxe prendre une place hors de ses frontières ou déjà rassembler ses communauté orthodoxe de par le monde, Cathy Rousselet.
Alors ça, c'est un point effectivement intéressant. La volonté de l'Église orthodoxe russe aujourd'hui, non seulement de réunir la Sainte Russie autour de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie. Sainte-Russie qui a beaucoup de mal à se reconstituer vu le conflit en Ukraine. Donc première étape, mais deuxième chose effectivement, cette volonté aussi de l'Église orthodoxe russe d'être présente en Europe, et on le voit pas loin d'ici avec
à Paris,
cette nouvelle cathédrale qui a été construite. Mais je pense que cette place de l'Église orthodoxe russe en Europe, elle doit être aussi considérée dans cette relation entre le patriarcat de Constantinople et le patriarcat de Moscou.
Alain Descoffes, un mot pour conclure?
En effet, les religions, comme bon, d'autres phénomènes sociaux, évidemment, ont un peu une phase de Janus, c'est-à-dire que oui, ça peut être un élément qui entretient la violence. Non, ça n'est pas que cela, et en effet, le rôle que le religieux peut avoir dans des actions de médiation, comme celle que Philippe a évoquée, est extrêmement important. Il faudrait aussi souligner ce qui est un phénomène relativement ancien, mais là aussi, c'est vrai que Jean-Paul II, en particulier, a joué un rôle important, c'est tout le dialogue interreligieux, qui a révolutionné quand même pas mal de choses. Donc, il y a aussi cet élément-là, et il faut le souligner.
Merci. c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS et directeur du série Sciences Po. Philippe Portier, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, directeur du groupe Société, Religion, Laïcité au sein du CNRS. Vous avez tous les deux, Alain Diekhoff et Philippe Portier, dirigé cet ouvrage Religion et politique qui vient de paraître aux presses de Sciences Po, ouvrage auquel a contribué Cathy Rousselet, qui est directrice de recherche à Sciences Po et spécialiste des questions religieuses en Russie. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie.